vous l'avez entendu, il est 8h sur Inter. Et c'est le journal de Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. Cap sur Biarritz avec notre envoyé spécial au sommet du G7. Nous ferons le point sur les dossiers chauds qui attendent demain les chefs d'État. Mais c'est peut-être aussi des grandes entreprises que viendront les avancées concrètes. Biarritz qui s'est vidé d'une partie de ses habitants. Gros dispositif de sécurité chez les forces de l'ordre. On s'interroge sur la possible irruption d'un basque bloc. Explication. L'Amazonie brûle, mais au Brésil, le président Bolsonaro n'aime pas Emmanuel Macron lui donne des leçons. Comment faire ses courses le dimanche en faisant travailler un minimum de salariés? Pour la première fois, un hypermarché d'Angers confie son magasin aux caisses automatiques. Cet été encore, les catholiques de France ont pu aller à la messe grâce au renfort de prêtres africains. Reportage. On n'aime pas avoir à vous le rappeler, mais la rentrée des classes c'est dans 10 jours. Maintenant, il est temps de reprendre un bon rythme de sommeil avec les enfants. Et puis ce soir, concert Nostalgie à Rock-en-Seine. On verra si les mélodies de Cure font danser toujours le public, 40 ans après leur début.
Deux auteurs de romans dans le grand entretien de la matinale, Marie Dariussec et Sylvain Prudhomme. Ils font partie de la sélection JDD France Inter pour la rentrée littéraire. L'une écrit sur une psy qui rencontre un migrant, l'autre sur un autostoppeur qui sillonne la France. De très beaux romans qui interrogent sur l'accueil et l'homme au sens de son humanité. Vos questions au 01 45 24 7000, franceinter.fr ou encore sur l'appli France Inter.
France Inter.
À Biarritz, les diplomates travaillent les dossiers dans l'ombre en attendant l'arrivée des chefs d'État demain soir. France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada et Japon vont discuter des grands dossiers du moment. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Sarah.
Vous êtes à Biarritz, où vous suivez pour France Inter ce G7. Les désaccords sont si nombreux que la présidence française a déjà prévenu. Il n'y aura pas de communiqué commun lundi, mais pour Emmanuel Macron, l'essentiel c'est que les dirigeants puissent se parler franchement.
Oui, le président français veut dépoussiérer le G7 qui s'était soldé l'an dernier au Canada par un fiasco après que Donald Trump a retiré sa signature du communiqué final. Pas de déclaration écrite donc à attendre cette année, Emmanuel Macron ayant ironisé sur ces documents que personne ne lit et sont, dit-il, le résultat d'interminables chicayas bureaucratiques. Ici à Biarritz, le G7 parlera de tous les sujets, y compris les plus irritants. Le Brexit, par exemple, avec la première rencontre Donald Trump-Boris Johnson. Elle sera scrutée à la loupe par ceux qui redoutent que Washington incite le nouveau Premier ministre britannique à sortir de l'Union européenne sans accord. Le retour de la Russie dans un format G8 sera aussi au menu, une demande surprise faite cette semaine par Donald Trump. Autre dossier irritant, l'Iran et l'accord sur le nucléaire que défendent plusieurs pays du G7, dont la France, malgré le retrait des Américains. Autant de débats explosifs auxquels on peut ajouter la taxe sur les géants américains du numérique. Personne ici n'attend d'avancées spectaculaires, mais plutôt des échanges francs, voire tendus.
Alors la France veut aussi ouvrir ce groupe des 7 à la société civile et des entreprises promettent d'être au rendez-vous sur le sujet du jour, la lutte contre les inégalités.
Oui, Emmanuel Faber, le dirigeant de Danone, mandaté par Emmanuel Macron sur des questions de justice sociale et environnementale, sera reçu cet après-midi à l'Élysée avec des dizaines d'autres grands patrons. Un plan de lutte contre les inégalités y sera officiellement lancé à la veille de ce G7. Le numéro 1 de Danone part d'un constat. 30% des ménages des pays de l'OCDE ont vu leurs revenus diminuer depuis 2005. Le problème est pris très au sérieux par beaucoup de dirigeants politiques du G7 qui y voient la cause de la montée des populismes. Il faut donc trouver des modèles de croissance plus inclusifs, c'est-à-dire plus équitables. Une coalition de 34 entreprises de pays riches promet de s'y atteler.
Merci Bertrand Galichet en direct de Biarritz avec Sandrine Malon à la technique. Côté pratique, je vous rappelle que toutes les gares SNCF de Bayonne à Hendaye ferment ce soir et qu'on attend de gros embouteillages, y compris sur l'autoroute A63 ce week-end. La ville de Biarritz est littéralement mise sous cloche. 13 000 policiers, gendarmes et militaires sont là pour dissuader toute manifestation violente. Le ministère de l'Intérieur a pris des mesures pour empêcher la venue d'activistes étrangers, mais il se méfie aussi des militants basques, Emmanuel Leclerc.
C'est un haut responsable de la sécurité de ce sommet du G7 qui le confiait ces derniers jours. Les activistes européens les plus radicaux ne sont pas venus en aussi grand nombre que ce que l'on pouvait redouter. Des questions d'argent sans doute, de logistique, mais aussi peut-être le risque de se faire prendre face à 13 200 policiers et gendarmes. Une armada à l'épreuve d'un basque bloc, car selon toutes nos sources qui ont multiplié les réunions depuis un an maintenant, c'est la mobilisation de militants basques qui fera la différence. Demain et dimanche, s'il y a foule, les plus violents des activistes vont pouvoir se fondre dans la masse et attaquer plus facilement, dit un officier. Pour un responsable du renseignement intérieur, il est pour l'instant très difficile de savoir si ça va réellement bouger côté basque en France ou côté espagnol. Hier, sur France Inter, le secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière, Yves Lefebvre, qui réside au Pays Basque, affirmait pour sa part que certains activistes ne sont pas venus sur la côte pour dénoncer le G7, mais bien pour tuer du flic ou du gendarme, avec une très grande crainte à l'égard de la manifestation de samedi prévue à Bayonne.
Avant de partir à Biarritz, Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée des représentants de la société civile aujourd'hui, mais une partie des ONG boycotte ce rendez-vous. Le réseau Action Climat, qui comprend Greenpeace ou le Secours catholique, estime qu'il n'a pas été suffisamment associé aux préparatifs du G7. Le Brésil, lui, n'est pas invité, mais Emmanuel Macron voudrait mettre sur la table la question des incendies qui ravagent en ce moment l'Amazonie. D'où ce clash sur les réseaux sociaux. Notre maison brûle, littéralement, a tweeté hier soir le président français. Le président brésilien Jair Bolsonaro a vivement répliqué en dénonçant une mentalité colonialiste dépassée. Alors sans aller sur ce terrain, Clément Sénéchal, spécialiste des forêts chez Greenpeace France, estime que la position française vis-à-vis du Brésil n'est pas toujours cohérente.
La réaction d'Emmanuel Macron, elle est bienvenue, elle est un peu tardive, mais surtout, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu hypocrite? Parce que Jair Bolsonaro n'avait jamais fait mystère de ses plans de vendre à la découpe l'Amazonie à l'agribusiness, de réduire toutes les législations qui permettaient de protéger l'Amazonie. Or, Emmanuel Macron a soutenu la signature d'un accord de libre-échange avec Jair Bolsonaro, le Mercosur. Donc voilà, on donne des satisfactions politiques d'un côté à Jair Bolsonaro et de l'autre, on va évoquer les incendies, la crise environnementale au G7. Très bien, mais où est la cohérence aujourd'hui entre la diplomatie d'une part et les politiques internationales commerciales d'autre part?
Propos recueillis par Sarah Tucherer. De son côté, la jeune Suédoise Greta Thunberg appelle les jeunes à manifester aujourd'hui devant les ambassades du Brésil. En Russie, on apprend ce matin que l'opposant Navalny a été libéré. Il vient de passer 30 jours en détention. En Italie, le président Mattarella a donné jusqu'à mardi aux partis politiques pour former une nouvelle coalition, faute de quoi il devra convoquer des élections anticipées. Après Twitter et Facebook, YouTube s'attaque à la propagande pro-chinoise. La plateforme a désactivé plus de 200 chaînes suspectées de vouloir discréditer la contestation à Hong Kong. De nouvelles manifestations sont annoncées aujourd'hui. Le trafic de l'aéroport international risque d'être à nouveau perturbé et les militants pro-démocratie ont prévu de former des chaînes humaines. Une référence à la grande chaîne humaine qui, il y a tout juste 30 ans aujourd'hui, ébranla le bloc soviétique dans les pays baltes. On estime que 2 millions d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens se donnèrent la main sur 600 kilomètres.
En France, la rentrée politique. À Toulouse, les écologistes comptent leurs troupes.
Europe Écologie Les Verts n'a pas seulement marqué des points dans les urnes aux dernières européennes. Le mouvement a gagné 2000 adhérents. Il en revendique 7000 désormais. Des jeunes urbains dont les écologistes veulent faire un atout pour les municipales de l'an prochain. Laurence Perron.
C'est vrai que la physionomie de ces journées d'été a changé, plus jeune, plus féminine. Les sandalettes en chanvre et la pilosité débridée sont désormais largement concurrencées par des looks très bobos. On croise une jeune collégienne, Adèle, qui milite pour Youth for Climate, le mouvement lancé par Greta Thunberg.
Je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait pour pouvoir échanger avec d'autres personnes, voir les débats qu'il y avait, les différents regards sur la cause climatique.
Alors on choisit ces nouveaux militants. Un speed dating était organisé hier pour mieux faire connaissance.
C'est une première université d'été. Donc toi, tu es...
Je suis candidat à la mairie de Paris, je suis David Béliard.
Bon, bah, Alors Gilles Kenervé, je suis breton.
Le garçon a 25 ans, il vient de prendre sa carte et il a pas mal d'ambition.
Moi, franchement, j'aimerais bien faire la campagne municipale. Toi, le seul truc que je me demande, c'est la position qu'on va avoir vis-à-vis d'Hidalgo. C'est vrai qu'elle a quand même eu un mandat assez écolo.
Il n'y aura pas de réponse à cette question. L'écologiste madré connaît bien les ficelles du métier. David Béliard ne va tout de même pas déclarer au beau milieu d'un speed dating la guerre à la maire de Paris.
Le Parti socialiste renoue aujourd'hui avec sa traditionnelle université d'été de La Rochelle. Le Parti communiste, lui, invite ses militants à Aix-en-Provence. Pour rester ouvert tout le week-end sans enfreindre la loi qui limite le travail du dimanche, la grande distribution a sa solution, les caisses automatiques. Le système commence à se développer. Ce dimanche, pour la première fois, un hypermarché d'Angers ne baissera pas le rideau à midi. Le reportage de Clément Paulin.
Un magasin ouvert et automatisé, même le dimanche après-midi. La pratique existe déjà en supermarché, mais pour un hypermarché casino, c'est nouveau. Luc Simon est le directeur de celui d'Angers.
Par rapport à la taille, le fonctionnement va être le même que les supermarchés. Le passage en caisse des clients, à partir de 12h30, se fait uniquement sur les caisses automatiques avec un paiement en carte bleue. Le rayon alcool est fermé, bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit de vendre d'alcool sans personnel. Ça permet de s'adapter au rythme des clients. C'est ça surtout l'intérêt.
À l'intérieur, seulement quelques vigiles et deux animateurs de caisse. Une demande des clients selon le directeur, mais tous ne seront pas forcément à l'aise au début.
J'ai des clients un peu plus âgés qui regrettent de devoir faire tout seul parce qu'ils ont du mal à utiliser les caisses automatiques. J'ai aussi beaucoup de clients qui veulent faire leurs courses à n'importe quelle heure et ça les intéresse.
Aucun changement a priori pour les salariés, mais certains ne voient pas l'intérêt de cette ouverture comme Sania Geshaïcha, déléguée CGT. Employée depuis 15 ans en magasin, elle craint davantage de dérives.
Jusqu'où ils vont aller, ils ne vont pas s'arrêter. Nous, on voit venir d'autres choses comme notamment la disparition du métier d'hôtesse de caisse. Ils pourront aller plus loin et en mettre encore plus. Ça représente quand même dans ce magasin environ une quarantaine de salariés, les hôtesses de caisse.
Le syndicat, lui, a déjà prévu un blocage du magasin dimanche matin pour espérer se faire entendre, des consommateurs surtout.
Clément Paulin, cet été encore, dans les diocèses catholiques, si les églises sont restées ouvertes, c'est grâce à des prêtres du monde entier et souvent africains qui sont venus faire l'intérim. Le diocèse d'Angers a reçu 34 renforts. Delphine Evenou a rencontré l'un de ces prêtres, originaire de Centrafrique. Il célébrera dimanche sa dernière messe après 2 mois passés dans le Maine-et-Loire.
Le calme de Béhuard, 125 habitants, tranche avec ce qu'a vécu le père Freddy Wakanga dans son diocèse de Kaga-Bandoro, tenu jusqu'à il y a peu par les groupes armés.
C'est moi qui faisais cette médiation entre les belligérants pour défendre un peu la population. Mais parfois j'étais incapable devant les faits. Il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants, il y a eu des gens qui ont été mutilés. Il y a cet esprit de vengeance qui règne dans les cœurs.
Pour se reconstruire, il suit depuis un an des études en Belgique et passe donc son été en France. Il a d'abord fallu s'adapter.
Chez nous, c'est beaucoup plus animé, ça chante tout le temps, ça danse, mais ici c'est un peu mort.
Mais le père Wakanga est surtout frappé de voir des fidèles dans les églises françaises.
Il y a quand même la foi, et en dépit du contexte de sécularisation, et ici en France, je suis très content de voir quand même les jeunes.
À la sortie de la messe, échange de sourires.
On a pu avoir la messe tous les jours.
Faustine, 43 ans.
Aujourd'hui, l'église d'Afrique vivifie l'église elle-même. On ne peut pas se passer des prêtres africains qui nous permettent aujourd'hui d'évangéliser aussi en France.
C'est du gagnant-gagnant, confirme Philippe Loiseau, prêtre depuis 30 ans dans le diocèse.
Ça permet aux prêtres qui sont maintenant beaucoup moins nombreux de partir en vacances. Il y a une raison aussi plus fondamentale, on se réconforte mais aussi on se stimule, on se redynamise les uns les autres.
Quand ils viennent en France, les prêtres sont nourris, logés, un peu indemnisés, à eux en revanche de payer visa et billets d'avion.
Une histoire et au lit. Dans 10 jours maintenant, les enfants reprennent le chemin de l'école et s'ils ont pris l'habitude de se coucher tard, il faut commencer à les recadrer, Maxime Debs.
Il est l'ennemi de toutes les rentrées. Et pour éviter que ce réveil et son bruit strident ne défassent trop vos enfants, il faut les mettre en condition, conseille François Testu, chronobiologiste qui étudie les rythmes scolaires.
Il faut essayer de dire à l'enfant, bah écoute, ce soir, on est à 8 jours, mettons 8 jours, une semaine de la fin des vacances, il faut que tu te couches un petit peu plus tôt. Hein, c'est pas 2 heures plus tôt, hein, c'est 10 minutes, et puis un peu et ainsi de suite, pas non plus, paf, c'est comme ça. Progressivement.
Signifiez à vos enfants gentiment que les congés, c'est bientôt terminé, mais sans trop les brusquer, préconise donc ce spécialiste. Et surtout, n'oubliez pas d'aller les coucher. L'une des tentations des parents est en effet souvent de vouloir profiter des dernières soirées d'été avec les enfants à leur côté. Une erreur qui pourrait se payer dans la durée.
C'est-à-dire que il y a toujours des phénomènes entre les vacances et la rentrée de désynchronisation au niveau de la rythmicité de vie. Et moins cette désynchronisation sera présente, et mieux les leçons seront apprises ou comprises.
Pour un élève qui entre en CP, le temps nécessaire de sommeil est estimé à 10-11 heures. S'il se lève habituellement à 7h30, le mettre au lit à 21h30 ce soir pourrait donc être une bonne idée.
Les vétérans de Cure ouvrent ce soir le festival Rock en scène au parc de Saint-Cloud. C'est la seule date française du groupe dont le dernier album Wish remonte à 1992. Autant dire que les moins de 30 ans ne connaissent pas forcément les cheveux ébouriffés de Robert Smith. Mais le festival parisien s'est donné beaucoup de mal pour les faire venir, Mathieu Culeron.
aucun doute là-dessus. Le groupe star de cette première soirée s'appelle The Cure. Le groupe de Robert Smith donnera ce soir un concert de plus de 2 heures. Double célébration puisqu'ils fêtent les 30 ans de leur album Disintegration et les 40 ans de leur premier disque. Un événement attendu depuis toujours au Parc de Saint-Cloud. Sarah Schmitt est directrice de Rock en Seine.
Je pense que depuis la première édition de Rock en Seine, il y a eu des discussions pour faire une proposition à The Cure et que ben, ça a mis 17 ans en fait, normalement. Là, c'est un petit peu particulier, c'est les 40 ans, donc ils ont soigneusement préparé leur planning, ils ont commencé à Londres l'année dernière, ils ont sélectionné les meilleurs festivals en Europe, on va dire. Donc effectivement, c'est une date exceptionnelle à ce titre-là cette année. Ouais.
Le groupe Bagarre aura, lui, la lourde tâche de jouer en face de The Cure, un challenge accepté avec fierté par la formation dont la première prestation à Rock en Seine n'était pas forcément leur meilleur souvenir.
On a joué sur une scène, genre comme une conférence, et il y avait 3 personnes, dont notre label. Donc on leur a fait un concert privé pour eux, et c'était genre la plus grosse honte de notre live, je pense. Du coup, on a une revanche, on a un truc à faire.
Mais encore une fois, c'était dans une salle de bureau, du coup, on s'est senti obligé de se mettre debout sur les tables comme des gamins, mais c'était terrible.
Je pense qu'on va laisser les vieux aller voir The Cure et que nous, on aura les plus jeunes.
Ouais, on fait l'after des Cure d'une certaine manière.
Le groupe Bagarre qui sortira son nouvel album en octobre prochain, précédé de ce single, Kabilifornie.
Voilà, on peut se moquer, hein, mais dans ce studio à France Inter, Cure a toujours du succès, visiblement.
Rock en Seine. Pourquoi on se moquerait? Pourquoi? Moi, j'assume totalement les cheveux en l'air et tout ça. Hein.
Bon, Rock en Seine, c'est à écouter aussi en direct ce soir à partir de 21h avec Rebecca Manzoni. Et le concert de Cure sera retransmis demain, Laetitia, à 21h sur France Inter.
Merci beaucoup, Sarah Guibaudot. Marie-Pierre Planchon, alors vous, c'est curesque ou pas du tout? Quelques brumes
non,
ce matin?
Non, pas curesque, et des brumes par contre, oui. Ah, matinale qui persiste. Persiste bien comme à l'intérieur de la Bretagne, vers Rennes. La visibilité est très réduite, ou vers les Ardennes et dans les vallées alpines comme vers Saint-Étienne. Ces brumes matinales nous rappellent quand même que l'automne n'est plus très loin. Le mercure est monté un peu plus haut qu'hier matin, malgré des îlots de fraîcheur comme vers Guéret, où vous vous réveillez avec 5 degrés, avec une polaire, alors que cet après-midi vous aurez 31. Vers Charleville-Mézières, il fait à peine 6 degrés, alors qu'il fait déjà 21 à Cognac et 24 au Cap-Corse. Ces brouillards vont vite se dissiper pour laisser place au soleil, avec toujours de l'instabilité encore, qui va circuler au-dessus de la Méditerranée, qui apporte des nuages de plus en plus nombreux des Alpes jusqu'à la Corse.
Et les nuages, on y vient, il y a des orages qui vont arriver.
Et oui, cette instabilité orageuse va arroser les Alpes du nord et du sud, ainsi que la montagne Corse. On attend jusqu'à un mois de pluie. Et sur le sud-est, le ciel restera donc voilé. Ça donnera un petit 28 à Saint-Raphaël, 29 à Bastia et Lyon. Il fera plus chaud à Nantes avec 32 comme à Nevers. Comptez 25 sur la plage de Coutainville dans le Cotentin, 27 à Maubeuge, 29 à Paris, Épinal, Aurillac, Ajaccio, Noirmoutier. Comptez 31 au château d'Aulnay. Léron, Bayonne, Marseille, bon, ça va monter jusqu'à 34 à Nîmes, 35 à Cahors et ça va donc continuer. La chaleur va s'imposer au moins jusqu'à mercredi.
Merci beaucoup Marie-Pierre Planchon.